Radio Kapi. À la présentation du journal, Lievin Mbwinga.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette grande édition du journal. À la une de l'actualité, alerte à une maladie non encore identifiée qui sévit dans la zone de santé de Panzi au Kwango. Déjà 60 morts en l'espace de 2 semaines seulement. Le gouvernement provincial a dépêché une équipe d'experts épidémiologistes sur place. Vous suivrez aussi les symptômes de cette maladie. Et puis, poursuite des combats ce mardi entre les éléments du M23 et les FRDC au village Outoué et Matembe. C'est à une 60 kilomètres de Libero Centre, au Nord Kivu. L'armée affirme tout de même maintenir ses positions. Détail dans un instant. Enfin, lutte contre le VIH-SIDA presque en panne au Kasaï central. En tout cas, le coordonnateur provincial du programme national multisectoriel de lutte contre le SIDA déplore cette réalité. Il est notre invité et va nous expliquer tous ses problèmes. Encore une fois, bonjour. Plus de 60 personnes sont décédées en l'espace de 2 semaines seulement de suite d'une maladie non encore identifiée qui sévit dans la zone de santé de Panzi. C'est dans la province du Kwango. Selon le ministre provincial de la Santé qui donne cette alarme, les symptômes observés chez les patients incluent fièvre et anémie et les enfants sont les plus affectés. Apollinaire Yuma indique que le gouvernement provincial a dépêché une équipe d'experts épidémiologistes sur place pour déterminer la nature de cette maladie. L'équipe va notamment prélever des échantillons et les envoyer à l'INERBE pour des analyses approfondies. En attendant, le ministre invite la population au respect des règles d'hygiène. Irène Bomaluzolo fait le point.
D'après le ministre provincial de la Santé du Kwango, les patients touchés par cette maladie inconnue dans la zone de santé de Panzi présentent des signes cliniques tels que la fièvre, les maux de tête, la toux et la pâleur. Apollinaire Yumba.
Il est signalé une épidémie non encore identifiée dans la zone de santé de Panzi, province du Kwango. Il dit au 25 novembre, la société civile et le médecin, chef de zone de Panzi, ont signalé la perte en vie humaine de 67 personnes. Le gouvernement provincial a dépêché une équipe d'épidémiologistes à Panzi pour évaluer la situation.
Les ministres en charge de la santé du Kwango invitent la population de cette partie du territoire de Kasongolunda à observer les règles d'hygiène pour se protéger contre cette maladie en attendant les investigations.
Nous avons dit à la population d'abord de ne pas paniquer, de limiter les mouvements. Les entrées et les sorties de cette zone de santé doivent être limitées. Éviter de se saluer en se serrant la main, de laver régulièrement les mains.
Cette information est aussi confirmée par le chef du secteur de Panzi, Alexis Kapenda. Il en appelle à l'implication du gouvernement central pour sauver la population de cette entité. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Restons dans le domaine de la santé pour vous signaler que la lutte contre le VIH-SIDA au Kasaï central est presque en panne en termes d'intervention face aux nombreux cas de malades enregistrés actuellement. En tout cas, c'est le coordonnateur provincial du programme national multisectoriel de lutte contre le SIDA, PNMLS, qui le dit. Jean-Carré Manchimba s'est exprimé hier lundi dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de lutte contre cette maladie. Quoique les stratégies soient mises en place pour l'élimination de la maladie d'ici 2030, les moyens ne suivent pas pour atteindre cet objectif, s'indigne-t-il. Ces propos sont recueillis par François Kadima.
Il y a insuffisance de moyens financiers. C'est pourquoi nous faisons toujours ce plaidoyer pour la mobilisation des recettes domestiques, les recettes locales. Nous avons toujours proposé, nous continuerons à proposer la création d'un fonds local pour appuyer la lutte au niveau du pays. Vous allez vous en douter, le nombre de malades enrôlés aujourd'hui dans la ligne ou dans les services de soins du VIH sous ARV sont à 6590, dont 6346 adultes, 244 enfants. Mais sur cette ligne-là, la province, selon, attend avoir 13 850, donc pratiquement 14 000 personnes avec VIH devaient être couvertes et nous sommes carrément en deçà de la moitié. Donc ça se pose un sérieux problème. Vu la couverture et vu des ruptures intempestives en test, il y a un problème d'intrants de prise en charge des infections sexuellement transmissibles et tout cela Ça a fait voir que le virus se comporte bien chez nous.
Voilà, Jean-Carré Machimba est l'invité du journal. On le suivra vers la fin de cette édition. Autre actualité au Nord Kivu, les combats se poursuivent pour la deuxième journée consécutive ce mardi entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et les FRDC dans les villages de Outoué et Matembe situés à environ 60 km de Lubero centre. Nous sommes là au Nord Kivu, selon des sources locales. Ces affrontements interviennent après une accalmie observée lundi soir dans les villages de Kasege, à Limbongo et leurs environs. L'armée affirme maintenir ses positions. André Kitenge fait le point de la situation.
La tension demeure vive à Outoué, un village situé à environ 23 km de Kanyabayonga, où des violents combats opposent les FRDC aux rebelles du M23. Selon l'armée, les rebelles du M23 tenteraient sans succès de contourner les positions des FRDC pour accéder au village d'Alimbongo. Le lieutenant Rigen Mbouy Kalonji, porte-parole des opérations au front nord, explique.
Hier, les affrontements ont cessé aux environs de 16h, 17h et ont repris ce matin. Et cette fois-ci, les combats sont plus concentrés du côté de Outoué, où les FRDC sont en train de fixer l'ennemi qui tente de déborder ou de percer certaines lignes de front. Comme je vous l'ai dit, hier comme aujourd'hui, les lignes de front n'ont pas bougé, les lignes restent intactes et toutes les lignes sont sous contrôle des FRDC, je cite Matembe, colline Kasinga, des antennes et Outoué.
Par ailleurs, des mouvements de population fuyant les zones de combat se poursuivent, rapportent des sources de la société civile. Ces mêmes sources indiquent que deux bombes larguées par les rebelles du M23 ont explosé à environ 2 km de l'hôpital général d'Alimbongo sans causer de dégâts matériels ou humains. Par mesure de précaution, même les malades internés à l'hôpital ont été évacués vers d'autres structures médicales éloignées des zones de combat. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Place à présent à cette vive tension qui s'observe depuis le week-end dernier à la petite barrière, principale voie d'échange commerciaux entre la ville de Goma et de Gisenyi au Rwanda. À la base, la décision prise par le maire de Rubavu depuis 4 jours, celle d'interdire les marchandises des petits commerçants congolais de traverser par camion, mais plutôt par moto-tricycle appartenant aux marchands rwandais jusqu'à Goma, cela au détriment des Congolais. Au moins 10 000 petits commerçants congolais regroupés dans 47 associations se trouvent ainsi pénalisés et leurs marchandises bloquées au Rwanda, déclare-t-elle. Sifamaguru nous en dit plus.
Les activités habituelles à la petite barrière sont quasi paralysées. Des centaines de vélos tricycles qui font des navettes entre Gisenyi et Goma étaient rares ce lundi. Pareil pour des gros camions qui font entrer des denrées alimentaires, notamment les fruits et les tomates en provenance de la Tanzanie, l'Ouganda et le Rwanda. La plateforme des associations des petits commerçants transfrontaliers explique que cette mesure du maire de Rubavu est contraire aux normes des échanges transfrontaliers. Elle favorise les marchands rwandais et les Congolais s'en trouvent être des grands perdants, déclarent les femmes. Nous avons eu des réunions et des réunions pour essayer d'harmoniser. Maintenant, eux sont habitués à faire passer leurs marchandises pour que les Congolais ne puissent pas trouver de bénéfices. Et nous, la population, nous disons non. Nous demandons que les autorités, le gouverneur et les maires puissent aller rencontrer leurs homologues du Rwanda. Ces marchandes congolaises disent avoir enregistré des grosses pertes d'environ 20 000 dollars américains depuis ces 4 jours. Elles sollicitent l'implication des autorités des deux villes voisines. Goma, Sifamaguru, Radio Okapi.
Et puis ce coup de pouce de l'Union européenne à l'endroit des forces armées de la RDC, l'UE annonce en effet la mise à disposition des FRDC d'un montant estimé à 20 millions de dollars américains destinés aux éléments de la 31e brigade basée à Kindu. À travers un communiqué de presse publié ce mardi, cette organisation indique que cet argent servira au renforcement des capacités des membres de cette unité dans la sécurisation du territoire national et la protection de la population. Ronlin Timbonera pour les détails.
C'est sur demande des autorités de la République démocratique du Congo que l'Union européenne et ses États membres ont décidé de lancer cette assistance aux forces armées de notre pays. Ce montant est débloqué dans le cadre du programme de la Facilité européenne pour la paix. Grâce à ces soutiens, l'Union européenne fournira des équipements individuels et collectifs non létaux pour améliorer les performances des éléments de la 31e brigade et procédera également à la réhabilitation de certaines infrastructures de leur casernement. Cette structure annonce un ensemble de mesures et de stratégies pour que ces fonds enfants servent à la promotion et au respect des droits humains et du droit international humanitaire au sein des forces concernées, révèle les communiqués. Afin de s'assurer de la situation sur le terrain, le représentant de l'Union européenne devra se rendre ce mardi à Kindu en compagnie du ministre national des communications Patrick Muyaya pour visiter les quartiers généraux de la 31e brigade de EFARDC, une brigade qui bénéficie depuis 10 ans de la formation dispensée par les instructeurs belges, la Belgique étant l'un des pays membres de l'Union européenne. L'allocation de ces fonds intervient alors que la RDC traverse une situation sécuritaire volatile dans sa partie orientale. Depuis 2 ans, le EFARDC lutte contre la rébellion du M23. Ce conflit a été à la base d'une crise humanitaire sans précédent. Selon OCHA, le Nord Kivu comptait, au mois de septembre 2024, plus de 2,5 millions de déplacés internes.
Sachez aussi que moins d'une semaine après la condamnation du colonel Ange Félix Mangwala dans le dossier de l'enlèvement d'un séminariste au grand séminaire de Lubumbashi, la commission provinciale Justice et Paix salue le verdict de la cour militaire du Katanga. Elle l'a fait savoir à travers un communiqué de presse, tout en reconnaissant le droit des personnes condamnées à interjeter l'appel selon la loi. Elle redoute cependant que ces décisions ne soient appliquées à l'instar de beaucoup d'autres rendus en faveur de l'Église catholique qui n'ont connu aucune exécution sur le terrain. Suivez le reportage de Jean Gando.
Dans son communiqué de presse rendu public ce 1er décembre, la Commission provinciale Justice et Paix se dit d'une part satisfaite du respect des principes d'un procès équitable et d'autre part félicite chaleureusement la Cour militaire du Katanga pour avoir dit le droit. Pour elle, ce jugement est un signal fort pour servir des leçons à tous ceux qui s'aventurent à spolier, à occuper illégalement la concession de Tchamalalé et d'autres concessions de l'Église catholique à Lubumbashi. Cependant, elle se dit préoccupée par l'exécution effective de ce jugement, d'autant plus qu'il en existe d'autres rendus par les cours et tribunaux en faveur de l'Église catholique, mais qui n'ont jamais connu une moindre application. Voilà pourquoi elle demande la démolition des maisons construites sur ce terrain non loti du grand séminaire de Tchamalalé. Tout en encourageant la justice, elle indique qu'elle ne ménagera aucun effort pour dénoncer toute attitude de négligence ou de complaisance dans l'exécution du jugement rendu en faveur de l'Église catholique du Katanga, ou encore toute tentative d'intimidation à son endroit ou à celui du personnel ecclésiastique. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Politique à présent, toujours pas de plénière devant examiner la motion de défiance contre le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guissaro. Le député national Willy Michiki dénonce la violation flagrante de la Constitution et du règlement intérieur, dit-il, dans une correspondance au nom de 123 députés acquis au changement. L'élu de Walikale menace des sanctions contre le bureau de l'Assemblée nationale pour violation de l'article 235 du règlement intérieur de la Chambre si celui-ci ne convoque pas la plénière demain mercredi pour statuer sur cette motion. Pour le député Gary Sakata, aucun député ayant signé cette motion n'a plus le droit de retirer sa signature conformément au règlement intérieur de la Chambre. Michel Kifintangoy pour d'autres explications.
Introduite depuis vendredi 28 novembre, cette motion de défiance signée par 58 députés vient de réaliser plus de 10 jours sans être examinée, alors que la Constitution et le règlement intérieur accordent seulement 48 heures, dénonce Willy Michiki.
Comme la plénière n'a pas été convoquée, nous estimons que notre bureau a violé le règlement intérieur. Et cela a des conséquences. Il y a des sanctions qui sont prévues, notamment une motion de défiance contre le bureau. On a donné un ultimatum de 48.
Pendant ces temps, les députés du MLC et AFDC ont déjà retiré leur signature sur recommandation de leur leader. Parmi les raisons évoquées pour ces désistements, il y a notamment le fait que ces députés n'ont pas reçu le mot d'ordre de leur autorité morale. Pour le député Gary Sakata, ce retrait des signatures va à l'encontre du règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
Le règlement intérieur de l'article 235 prévoit que lorsque un député appose sa signature sur une motion pour atteindre donc le 10e, cette signature ne peut plus être ni retirée ni ajoutée.
Il faut noter que cette motion de défiance est à l'initiative de quelques députés de l'UDPS et qu'une fois les signatures sont réduites à moins de 50, la motion sera rejetée par le bureau de l'Assemblée nationale conformément au règlement intérieur.
La voirie urbaine très endommagée dans la ville de Mbujimayi, à la base, les pluies qui s'abattent dans cette ville du Kasaï oriental. Les communes actuellement les plus touchées sont Kanchi et Bipemba. Conséquence, les routes sont complètement coupées et circuler devient un parcours de combattants. Reportage d'Esther Ndalafina, rendu par Stanislas Djoumi.
Bafoua Fomoukouna, chef de quartier Meta Moudiaï, dans la commune de Lakanchi, affirme que plusieurs avenues sont coupées.
Les écoles primaires Toubondo et Saint-Léonard sont détruites par les pluies. Des têtes de ravins se sont créées sur les avenues de la Mission, Kataï, Monaké, Bang, Alula. Les véhicules ne peuvent plus arriver chez Moulamba Wampoï.
Toujours dans la commune de Lakanchi, Hubert Kolela, chef de quartier Jika, affirme que plusieurs têtes de ravins empêchent la circulation de personnes.
Nous sommes dans la souffrance à cause des têtes de ravins. Les enfants ne vont plus à l'école. Il y a une tête de ravin sur l'avenue Kanchi, Kasekamwanza, avenue Tidibi, avenue Kamwanya, avenue Kangoudia. Il y a même des parcelles qui se sont effondrées.
Dans la commune de Bipemba, l'avenue Chula Mutombo, derrière l'aéroport de Mbujimayi, est complètement coupée depuis la semaine dernière. Les habitants de plusieurs quartiers font le détour pour atteindre le centre-ville.
Actualité internationale.
Après le Niger, le Mali et le Burkina Faso, le Tchad à son tour a annoncé mettre fin aux accords militaires qui le lient à Paris. N'Djamena dit vouloir réorienter ce partenariat sur d'autres domaines. Au même moment, le Sénégal remet en question la présence de quelques 350 soldats français sur son territoire.
L'invité.
Le Monde a célébré le 1er décembre la journée mondiale contre le sida. Au Kassai Central, le coordonnateur provincial du programme national multisectoriel de lutte contre le sida, PNMLS, s'indigne du fait que la province connaît une faible intervention en termes d'activité et d'intervenants dans la lutte contre cette maladie. Pour Jean Carré, Machimba, il faudrait une forte mobilisation de ressources pour soutenir les stratégies mises en place dans la perspective de l'élimination de la maladie d'ici 2030. Il s'entretient ici avec François Kadima. Suivez.
Monsieur Jean-Carré Machimba, bonjour.
Bonjour.
Le Monde a célébré le 1er décembre la journée dédiée au sida. Quel est l'état des lieux de la maladie dans la province du Kassai Central?
Au Kassai Central, il faut reconnaître que le VIH est un des problèmes inquiétants par le fait que ces affres continuent toujours à victimiser les populations. Le Kassai Central a un problème de couverture zonale, couverture en termes d'intervention ou d'activité de lutte contre le sida. Nous sommes à 21% de couverture au niveau de la province. C'est dire que de par les 26 zones de santé que nous avons, de par les nombres de formations sanitaires qui intègrent les activités, nous avons 214 maternités sur 1021. Donc ça fait pratiquement 21% de couverture. Ça pose déjà un problème. Partant seulement de là, vous sentez qu'il y a cette faible couverture des interventions de lutte qui offre au VIH l'opportunité de bien se comporter. Et il y a cette faible intervention en termes d'activité et d'intervenants dans la lutte. Nous sommes en train de nous buter devant une insuffisance criante de moyens. Et c'est pour cela que nous disons que le VIH est un problème. Et nous nous sentons même loin d'atteindre les objectifs que l'ONU SIDA a fixés. Ces objectifs qui stipulent la fin de l'épidémie du VIH comme un problème de santé publique d'ici 2030.
Donc aujourd'hui, selon le PNMLS, vu l'état de la situation actuelle face à la maladie, les actions menées pour essayer d'éliminer la maladie sont minimes pour atteindre les objectifs.
Il faut le dire qu'il y a insuffisance de moyens financiers. C'est pourquoi nous faisons toujours ce plaidoyer pour la mobilisation des recettes domestiques, les recettes locales. Nous avons toujours proposé, nous continuerons à proposer la création d'un fonds local pour appuyer la lutte au niveau du pays. Vous allez vous en douter, le nombre de malades enrôlés aujourd'hui dans la ligne ou dans les services de soins du VIH sous ARV sont à 6590, dont 6346 adultes, 244 enfants. Mais sur cette ligne-là, la province, selon les projections, attend avoir 13 850, donc pratiquement 14 000 personnes avec VIH devaient être couvertes et nous sommes carrément en deçà de la moitié. Ça pose un sérieux problème. Vu la couverture, comme je disais, des ruptures intempestives en tests, comme quand nous parlons maintenant, nous avons un problème de tests de dépistage VIH, il y a un problème d'intrants de prise en charge des infections sexuellement transmissibles et tout cela, ça a fait voir que le VIH se comporte bien chez nous. Et les interventions sont en deçà des attentes si réellement nous devons répondre au rendez-vous de mettre fin au VIH d'ici 2030.
Qu'est-ce qu'il faut faire actuellement pour avancer et atteindre ses objectifs. Qu'est-ce qu'il faut?
La clé de solution à cette affaire est simple. C'est l'appropriation et l'implication politique de la lutte. C'est tout ce qu'il y a. Il faut voir que les moyens qui sont mis en jeu viennent carrément de partenaires extérieurs. La lutte est extravertie. Nous parlons de la durabilité de la lutte. Le contexte de la durabilité implique l'appropriation du pouvoir local. Et aujourd'hui que la lutte est décentralisée, la politique réclame à chaque province de prendre à bras le corps sa lutte. La chance ou l'espérance ou l'espoir que nous portons au Kasaï central, c'est qu'avec l'événement du leadership au niveau de la province, nous avons senti son engagement pour la mobilisation des ressources, l'appropriation des fonds, que ce soit au niveau de l'exécutif provincial ou au niveau de législatif. Nous avons rencontré les animateurs qui sont très disponibles, qui nous ont apporté une oreille attentive, et nous pensons que peut-être qu'avec eux, avec une forte mobilisation, une volonté politique affirmée, nous sommes en mesure de contourner. Parce que ce qui nous manque, ce sont les moyens. Il y a insuffisant de tests, insuffisant d'intrants, il y a insuffisant de ressources. Donc la population est mobilisée. Nous célébrons la JMS sous un thème national, ensemble pour le renforcement du leadership de la communauté. Et avec un sous-thème, les droits au centre et la communauté à la tête.
Monsieur Jean-Carré Machimana, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous nos auditeurs, spécialement à ceux du Kasaï central. Merci à Martin Sebujangwe, à Élisée Chikota et à Mimi Kindou.
Retrouvez les informations de Radio Okapi sur votre téléphone en composant le 42 500.